On est en train de continuer l'étude sur la transformation que le Saint-Esprit veut faire en nous pour nous amener comme Jésus, à être comme Jésus, à imiter Jésus. Pas l'imiter dans le sens qu'on va se forcer pour le faire, mais le Saint-Esprit va nous amener à ce qu'on soit capable de vivre comme Jésus, avoir ses pensées, ses sentiments, avoir à cœur les choses comme lui les avait à cœur, aussi même participer à sa puissance, ses dons spirituels, ses miracles. Il veut qu'on devienne comme lui. Jésus a dit, « Tout disciple accompli sera comme son maître. » Y a-t-il quelqu'un qui l'a atteint? Non. On vise, on ne l'a pas encore atteint, puis on continue à viser à vouloir devenir comme Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui aime ça, aller chez le dentiste?
Non.
Quand t'as une carie à faire plomber, puis là, il te sort sa drill, une Makita, une demi avec une grande mèche, puis là, il veut te faire un trou, là, tu vois, arriver ça. Y a pas personne qui aime ça. Y a comme une petite sensation de crainte, mêlée peut-être de peur, peut-être d'angoisse, peut-être on se met à suer, puis on se tient sur le banc, parce que là, il veut faire de quoi direct dans un trou que moi, je suis pas capable de rejoindre. Mais l'opération que le Seigneur veut faire dans nos cœurs, c'est exactement la même affaire. Puis souvent, on n'est pas prêt à se laisser opérer. Parce que là, il faut qu'il fasse de quoi? Il faut qu'il enlève des choses qui ne sont pas de lui, qui sont là. Il veut nous amener à être comme Jésus, puis ces choses-là nous empêchent. Voyez-vous, ça prend son intervention, puis ça prend notre accord à vouloir, oui, Seigneur, fallait. Puis quand tu t'acceptes, après ça, tu t'aperçois que tu es mieux. Amen. Parce qu'il t'enlève tes fardeaux. Dans Hébreu, ça dit de se débarrasser de tout fardeau, puis de tout péché qui nous enveloppe si facilement, puis de pour pouvoir courir. Si tu es chargé de plein d'affaires qui sont pas du Seigneur, tu peux pas courir dans le Seigneur. Aujourd'hui, on regarde un autre point qui parce qu'il y a plusieurs points qui sont déjà révélés dans la parole sur des choses, des états de cœur que Dieu veut changer. Parce que c'est le cœur de l'homme, c'est là que ça se passe, notre changement, notre transformation. C'est là le combat. Il y a comme des forteresses, il y a des choses qui résistent en nous, parce que notre chair, elle a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, puis l'esprit a des désirs contraires à celui de la chair. Puis là, il y a comme un tiraillement entre nous. Puis là, il faut qu'il brise des choses, qu'il nous déracine des choses, il faut qu'il nous déchaîne, parce qu'on est enchaîné. Il faut l'avouer, quand t'es pris dans quelque chose... Et Jésus, il dit, si tu pratiques le péché, là, ben, t'es esclave du péché. T'as besoin d'être, tes chaînes soient brisées pour que tu sois libre. C'est ce qu'on a chanté tantôt. Libéré. Christ m'a libéré. Mais il nous a libérés quand on est venu à Jésus du fardeau de nos péchés. Mais on n'a pas été totalement délivrés de tous nos péchés. Dans le sens qu'on en a fait d'autres après. Il y a des choses qu'on a répétées, des choses qu'on avait avant. Puis là, il veut nous sortir de là. C'est sûr qu'après X années, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Êtes-vous heureux de cela? Ceux qui ont expérimenté, on est bien mieux aujourd'hui que qu'est-ce qu'on était avant. Amen. Aujourd'hui, le cœur, l'état de cœur qu'on veut regarder, parce que Jésus veut faire une opération à cœur ouvert, notre cœur spirituel, notre âme, notre esprit, notre fort intérieur, il veut nous parler sur les cœurs hypocrites. C'est un état de cœur que tout le monde peut être, mais qui veut pas que ça soit. Puis ça, si c'est là, on n'avancera pas pour être changé, pour arriver à être comme Jésus. L'hypocrisie, on va le voir un petit peu plus en détail ce que c'est, mais c'est des tromperies. C'est se tromper soi-même, mais essayer de tromper les autres. Être hypocrite, c'est d'essayer d'être ce qu'on n'est pas. Essayer de montrer qu'on est quelque chose d'autre, puis on l'est pas. C'est des tromperies qui détruisent l'unité que le Saint-Esprit essaie de construire. Parce que dans l'Église, on est tous joints par le Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas l'Église, puis vous, vous n'êtes pas l'Église. Nous sommes des pierres qui, ensemble, forment l'Église. On n'est qu'un membre du corps. Nous ne sommes pas le corps à nous tout seuls. J'ai besoin des autres de l'Église pour être joint aux membres de l'Église, pour former le corps et pouvoir voir la gloire de Dieu dans le corps. Puis là, le Seigneur veut nous amener à ce qu'on crée des liens, des jointures, des liens qui vont nous unir. Puis ça, c'est l'amour, mais aussi les liens qui sont par le Saint-Esprit. Puis qu'on va recevoir les uns des autres des bénédictions, l'onction, des touches, des signes, des prodiges, des miracles. Tout se fait dans l'Église, mais les uns avec les autres. C'est un solide assemblage que Dieu veut nous amener à être. Mais quand on vit de l'hypocrisie, c'est des tromperies, c'est du mensonge, c'est de la falsification, c'est de la duplicité, double les langues qui dit une affaire, puis ça revient d'abord, puis dit d'autres choses. Si c'est dans l'Église, ça détruit l'unité. Y a-t-il aux yeux de Dieu une différence entre ceux qui mentent un peu de temps en temps ou ceux qui sont carrément, qui sont des menteurs chroniques? Y a-t-il une différence? Non. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ment, elle transgresse le commandement de Dieu qui nous dit « Tu ne feras point de faux témoignages. » Fait que tu mentes une fois par jour ou que tu mentes 10 fois par jour, un menteur, c'est un menteur. Il transgresse la parole, le commandement de Dieu, il attriste le Saint-Esprit, puis quand tu as menti à un de tes frères que tu serais pour être uni, puis deux, tu as menti à deux, tu as menti à trois, le solide assemblage, il prend une débarque, puis là, un moment donné, il y a des liens qui commencent à se lâcher. On n'est plus autant assemblés. C'est-tu agréable dans une église que l'église soit pas assemblée? Quand que l'église parle un contre l'autre, puis tout le monde sont fâchés, puis tout le monde se chicane, tout le monde critique. L'Église est loin d'être soudée, des fois, elle tient juste par une moille. S'il y en a un qui lâche, là, l'Église se divise, tout est dispersé, il n'y a plus rien qui marche. C'est pas ça que Dieu veut nous amener. Il veut pas nous amener à cet état-là, il veut nous amener à être solide assemblage. N'est-ce pas qu'il est très difficile de faire confiance à quelqu'un qui nous ment? Tout le monde est comme ça. Je pense pas qu'il y a du monde qui aime ça, se faire compter des menteries direct dans le visage. C'est vraiment désagréable. Quand quelqu'un me compte, moi, j'étais un gars qui croit, à la base, je crois tout le monde suite au départ. Mais quand j'apprends que c'est une menterie qui me dit direct d'en face, tu m'aurais donné un coup de masse, ça m'aurait fait le même effet. Moi, ça me paf, j'ai comme tu me frappes. La Bible, elle parle de cela. Il y a un verset qui dit exactement cela dans Proverbe 25, le verset 18. Il dit, comme une massue, une épée, une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Ça frappe. Des menteries, ça frappe. Tu peux être un gars extrêmement, dans ton comportement, extrêmement doux, puis être en train de frapper tout le monde tout le temps par tes menteries. Une menterie ici, une menterie là, pif, paf, paf, tout le monde se sent frappé, des claques, des coups de poing. Ça dérange au niveau de l'unité, n'est-ce pas? Quelle est la limite pour quelqu'un qui s'habitue à mentir? Il n'y a plus de limite. S'il ose transgresser une fois, parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la conscience que le Saint-Esprit l'a emmené à vouloir respecter les commandements de Dieu, s'il se permet de les transgresser à sa guise, puis il trouve que c'est pas grave, c'est une joke. Il te frappe un coup de masse, c'est une joke. Il n'y a pas de joke là-dedans. C'est vraiment comme si t'aurais frappé quelqu'un. La Bible, elle dit, puis moi, je le ressens. Je sais pas si vous êtes comme ça. La plupart, je pense qu'on est comme cela. Puis si quelqu'un se permet de compter une petite menterie ici, une menterie là, puis c'est des petites menteries vignelles, là, des petites menteries blanches, des petits péchés blancs, là, comme si c'est pas si grave que ça. Mais les commandements de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Jésus, il dit, si tu m'aimes, tu vas garder mes commandements. Mais ces commandements, le mensonge, là, vous savez de où est-ce que ça vient, le mensonge, hein? Ça vient du diable. Un chrétien ne devra jamais mentir, même pas pour se défendre. Quand on se met à se permettre de mentir pour se défendre, pour se trouver des excuses, ben on est rendu loin on a perdu le fil de notre communion avec Dieu, parce qu'un chrétien devrait être capable d'endurer. Oui, j'ai fait une erreur. Au lieu de camoufler par un mensonge, c'est de laisser le diable direct parler à travers notre bouche pour essayer de nous camoufler. Pensez-vous qu'on est vraiment camouflé devant Dieu? Faut pas oublier que Dieu voit les cœurs pour rendre à chacun selon ses voies. Il dit, tu sèmes, tu vas récolter ce que tu sèmes. Si tu veux vivre dans le mensonge, faut pas s'attendre à ce qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Ce qui va arriver, ça va être rempli de Satan. Qu'est-ce qui est arrivé à Ananias et Saphira? Ils ont voulu compter une menterie aux apôtres. Ils ont dit, oui, c'est à ce prix-là qu'on a vendu à la maison. Il dit, comment est-ce que Satan y a-t-il pu remplir vos cœurs au point que tu mentes au Saint-Esprit? Il est en train de mentir à un apôtre, mais quand tu mens à un disciple, tu es en train de mentir à Dieu. Aïe, aïe. C'est pour ça qu'il faut apprendre la crainte de l'Éternel. Oui, Paul l'a dit, parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de danger. Une fois que tu as accepté Jésus, voilà 20 ans, tu peux vivre dans les menteries, c'est pas grave. C'est pas biblique pantoute. Il dit, c'est pour ça, Paul, il dit, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui sont infirmes, malades, d'autres sont morts. Ils ont été frappés par le Seigneur. C'est un jugement, pareil comme Ananias et Saphira sont morts. C'est un jugement parce qu'ils mentaient. Mais dans l'Église, le Seigneur veut pas que l'hypocrisie, le mensonge, tout ça, ça soit là. Il veut qu'on marche dans la vérité. Dans Jérémie 17, le verset 10, ça dit, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » On récolte ce qu'on sème, mais ce qu'on voit là-dedans, c'est que Dieu voit tout ce que tu penses. Quand tu dis des menteries, pensez-vous que Dieu s'en rend pas compte? Oui, il s'en rend compte. On pense pas qu'il s'en rend pas compte. L'hypocrisie, quand on regarde ça en étudiant la Bible, le mot hypocrisie qu'il y a là, dans la Bible, ça veut dire hypocrisie ou dissimulation. C'est ce que Louis II a donné comme mot français pour remplacer ce mot-là. Dans les différents sens, pour le comprendre, j'en ai déjà parlé un peu, c'est celui qui répond. Mettons, là, quelqu'un dit quoi, mais l'autre se fait passer pour l'autre, puis il dit l'affaire comme si ça venait de lui. Ou c'est une réplique. Quand tu apprends un texte, mettons, faire une pièce de théâtre, tu apprends un texte, tu imites le personnage que tu veux jouer, puis tu dis des choses pour faire à semblant que c'est toi, ce rôle-là. Le rôle d'un joueur de théâtre, c'est ce que aussi le sens, c'est ce que je suis en train de vous dire, ou dissimulation puis hypocrisie. Hypocrisie, c'est comme si tu serais un acteur. Tu es un hypocrite. Tu essaies de te faire passer puisque tu n'es pas. Tu vas dire des affaires pour soi pour te justifier ou des affaires pour te valoriser, parce qu'il y en a qui inventent des menteries, si tu les questionnes, savoir ce qu'ils ont fait, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont gagné ci, ils ont gagné ça pour se rehausser dans leur valeur. Mais en réalité, c'est du mensonge, carrément. Ils essayent de se montrer ce qui n'est pas. Puis ça, c'est péché devant Dieu. Dieu sonde le cœur des gens, puis voit les gens vrais et les faux. Parmi ceux qui se disent hommes de Dieu et ceux qui ne le sont pas, les faux sont des hypocrites. Parce que tu regardes les religions, là, il y en a tellement de religions, puis ils suivent pas tout le chemin de Jésus, là, puis ils se disent hommes de Dieu. Donc, c'est tous des acteurs. S'ils sont pas un homme de Dieu, ils sont pas nés de nouveau, ils connaissent pas ça, là, que le salut est par Jésus qui est mort pour nous, pis tout ça, puis s'ils croient pas à la vérité, ils sont pas sauvés, puis c'est pas des hommes de Dieu. Faut, on les regarde, oh, ça parle, sont drettes comme une barre, puis ont tous les cheveux bien coupés, avec les toutes bien des babioles suspendues tout le tour, puis ça se promène, puis ça dégage une odeur d'encens. Ça a l'air sain au bout, mais c'est pas le, tu le questionnes, puis c'est pas la doctrine de la parole de Dieu, puis il s'est pas repenti pour accepter Jésus. C'est pas un enfant de Dieu. C'est pas un homme de Dieu. Même s'il se pense, c'est par ignorance peut-être, ou par hypocrisie, parce qu'il veut montrer qu'il est ce qu'il n'est pas, puis il sait pas comment, puis... En tout cas, pourquoi qu'ils font cela, je le sais pas. Quand tu vas lire la Bible direct à la source, tu t'aperçois rapidement c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est pas vrai. Mais il y en a qui veulent vivre cela, puis ont développé des religions, puis sont pas des enfants de Dieu. Ils font semblant. Le Seigneur nous a donné des pistes. Mais là, on les verra pas toutes, juste quelques-unes, juste pour nous donner une idée des pistes que les gens... Les gens faux mettent l'accent sur les apparences. Ils font leur action pour être vus des hommes. Le but est pas le bon. Ils sont pas là pour la bonne affaire. Ils comprennent pas le vrai sens d'un vrai enfant de Dieu. Jésus les a reprochés aux gens religieux de l'époque qui faisaient semblant d'être des représentants de Dieu. Dans Matthieu 23, le verset 5, il a enseigné qu'ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ça c'est des, puis de longues franges à leurs vêtements, blablabla, il y en met. Jésus, il a expliqué ça, puis il dit ça, c'est du tape à l'œil. C'est pas être vrai. C'est une des caractéristiques. Ils font les choses, tu regardes les religions, la photo dans le journal, ils ont fait un don, ils montrent le chèque, le montant, ils sont fiers. Ils ont déjà leur récompense. Il y a quelque chose que le monde qui connaissent pas Dieu, ils connaissent pas la parole de Dieu, puis ils font ça naturellement, puis naturellement, ils répètent ce qui se passait dans le temps de Jésus. Quand tu parles à un gars ou une personne, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans leur cœur. On écoute la personne, ce qui sort de sa bouche, puis on peut croire à ce qu'elle dit. Tu sais pas ce qu'il pense dans son cœur, mais Dieu le sait. C'est pour ça qu'il est important de faire attention aux gens qui nous parlent. Dans Matthieu 23, le verset 27 à 28, ça dit, c'est Jésus qui parle encore, aux gens qui voulaient dénoncer. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! » Voyez-vous, Jésus les appelle des hypocrites, des acteurs. « Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. » Savez-vous, c'est quoi un sépulcre blanchi? Un sépulcre, c'est le tombeau, parce qu'anciennement, il enterrait pas tout le temps les gens, il creusait un trou, puis dans une pierre, puis il mettait le corps dans la pierre, fait que la pierre était l'endroit pour recueillir les corps des morts. Et puis là, c'est un corps-là qui a refermé la porte, comme Jésus il est mort, il a été mis dans un tombeau, dans un sépulcre, il a été mis là-dedans, ils ont fermé la porte. Puis là, tu pourrais le peinturer blanc. Ça a l'air bien beau, là, une belle roche, toute sculptée, avec un beau trou, avec une belle roche qui fait la finition, toute peinturée blanc. Il dit ça, c'est beau, là, c'est blanchi, ça a l'air à l'apparence, wow, c'est bien fait, c'est bien sculpté, c'est beau, ça frappe à l'œil, ça a l'air à, je veux visiter des sépulcres, puis on se dirait, on voudrait visiter. Mais il dit que les gens, ils sont comme des sépulcres blanchis. Ils regardent en dehors, ils sont blancs, ils sont beaux, ils ont de l'air en parfaite, une apparence parfaite, une apparence intéressante, mais en dedans, c'est des ossements de mort qu'il y a là. Jésus, quand il regarde les gens, il voit l'intérieur. Il voit l'intérieur. Tu peux arriver à l'église toute bien shiny, toute bien habillée, toute bien propre, clean cut, les cheveux bien coupés, la moustache taillée, toute l'équipe. Puis d'arriver à l'église, puis ton intérieur est plein de mort, d'ossements, de pourriture, de méchanceté, etc. Jésus est en train de dire aux pharisiens, puis il les appela des hypocrites, des acteurs, des ceux qui font en semblant, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Et vous de même, au dehors, comme des sépulcres, mais vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. C'est pour ça qu'il y a même une place dans le Nouveau Testament, il dit que la femme ne doit pas chercher à avoir les parures extérieures, mais un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Travailler l'intérieur plutôt que travailler l'extérieur. L'extérieur, oui, ça frappe, c'est attirant, mais c'est pas le but. Pour un vrai, quelqu'un qui dit homme ou femme de Dieu, faut travailler l'intérieur. C'est là que tu démontres que tu es un vrai. Sinon, Jésus nous regarde et nous traite d'hypocrite. Puis l'hypocrisie, un autre piège, un autre danger que ça amène, là, puis c'est pas léger. Vous allez le voir dans comment Jésus a dit ça. Il dit, l'hypocrisie, ça mène à l'orgueil que Dieu condamne. Parce qu'il y a des états d'orgueil dans les humains que Dieu condamne. Le verset, vous l'avez entendu, Dieu résiste aux orgueilleux, puis il fait grâce aux humbles. Quand les gens cherchent à paraître ce qu'ils sont pas, c'est parce qu'ils veulent s'élever. Moi, jamais je fais ça, moi. Mais là, quand tu dis ça, puis tu te penses de même, tu es dans l'orgueil. Tu es dans l'orgueil qui va être condamné par Dieu, que Dieu résiste aux orgueilleux. Dans Luc 16, 15, Jésus explique cette idée-là. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Voyez-vous l'opération que Dieu veut, faut que Dieu fasse dans leur cœur comme dans le mien. Dieu voit le cœur, puis il regarde le cœur, il regarde pas les apparences. Il dit, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui s'élève, puis qui se pense bon, puis se pense supérieur, puis il compte des menteries pour montrer qu'est-ce qui est pas, parce qu'en réalité, devant Dieu, on est tous des pécheurs, on est tous des gens qui méritent rien, puis on devrait tous marcher, tu sais, comme dans l'humilité. Quand les gens s'élèvent comme ça, puis qu'ils en mettent pour épater les copains, pour éblouir les gens de la salle, là, mais il est en train de monter en orgueil. Puis ça dit dans ce verset-là, ce qui est élevé parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. Dieu, il n'aime pas l'orgueil. Il veut pas qu'on se pense, en tant que chrétien, qu'on se pense qu'on a atteint des niveaux. On n'a pas atteint de niveau. On n'est encore pas rendu au niveau qu'on vise, voyez-vous. On n'a pas à se péter bretelles pour se penser meilleur. Puis quand on se pense meilleur, on est en train de jouer un autre rôle que qu'est-ce que nous sommes vraiment devant Dieu. On est en train de s'afficher comme quelqu'un qui l'a atteint ou qui est supérieur. C'est de l'orgueil, c'est une abomination devant Dieu. Malheureusement, la Bible dit qu'il y a aussi de l'hypocrisie dans l'Église. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je vais sortir quelques versets qui en parlent. Puis ça, c'est pas pour qu'on regarde les autres, c'est pour qu'on se regarde soi-même, qu'on s'examine soi-même. Qu'on en regarde, ça m'arrive-tu, moi, d'être orgueilleux, puis de me vanter ou essayer de... Oui, ça m'arrive. Je dirais pas que ça m'arrive pas, parce que si je dirais que ça m'arrive pas, je suis déjà dans l'orgueil. Ça nous a tout arrivé de dire de quoi pour essayer de se monter un peu. Ça, c'est de se monter pour montrer qu'est-ce qu'on n'est pas. Il n'y a rien de ce qui sort de nous qui est de valeur aux yeux de Dieu, sauf ce que le Saint-Esprit produit en nous. Ce que la chair fait, ça sert à rien. C'est zéro devant Dieu. Fait que notre chair, elle n'a aucun sujet de se vanter ou de se glorifier. Dans l'Église, là, je parle. Il y a des gens qui trompent les autres, qui mentent, qui dissimulent, qui mettent des masques, qui utilisent des manigances pour se camoufler. Tout ça, là, c'est des formes d'hypocrisie. On a toutes des moments que ça nous arrive. Puis si on pense que ça ne nous a pas arrivé, on est encore en train de se mentir à nous-mêmes. Puis si on le dit de notre bouche, on est en train de mentir aux autres. Parce que ça arrive à tout le monde de se montrer. Comment ça va, mon frère? Super! En réalité, tout le long, on s'est plaint en char que ça allait mal. On est déjà dans le mensonge tout le long. C'est vrai, là. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Il faut réaliser, puis il faut changer, parce que ça, on peut, si on reste comme ça, on pourra pas être comme Jésus. Faut être vrai. Faut pas être, se mentir les uns aux autres. Faut être vrai. Faut dire les vraies affaires. On est pas obligé de dénoncer notre liste de péchés à tout le monde, là. C'est pas ça qui est l'idée. C'est, oui, ça va bien par la grâce de Dieu, mais j'ai des petites affaires, mais je les ai mis dans les mains du Seigneur. Faut pas que t'en mettes trop, tu sais. Faut que tu dises les vraies affaires. Dans la Bible, ça nous parle d'un exemple d'un apôtre qui a été repris. Pour de l'hypocrisie. Vous allez voir c'est quoi un peu le jeu de l'hypocrisie dans l'Église. Dans Galates, le chapitre 2, le verset 11 à 14. C'est l'apôtre Paul, Pierre qui a été repris par l'apôtre Paul, puis il faisait des manigances. Mais il s'en rendait pas compte, ça a pris que Paul le reprenne, c'était pas dans le but de le rabaisser, c'est dans le but de marcher selon la vérité. On est des vrais, on n'est pas des gens qui dissimulent des affaires. Dans Galates 2:11, ça dit, « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face. » Parce qu'il était répréhensible. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que Paul, il voulait pas se montrer supérieur, mais Paul voulait que les choses, qu'on marche droite en tant que chrétien. Puis, à cause que c'est le nom du Seigneur qui est en jeu, Paul l'a résisté, mais c'était pas par orgueil, c'était pour dans le but de le redresser. Puis il savait aussi que Pierre, c'est un apôtre. Il a sûrement appris à être enseignable. Puis de pouvoir écouter, tu sais, puis de vouloir, oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, puis t'as raison. C'est l'humilité qui va nous faire répondre comme ça, comme qu'on peut répondre, que c'est qui t'es pour venir me dire quelque chose? Ça, c'est une réponse d'orgueilleux. Au verset 12, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, des Juifs, ils mangeaient avec les païens. Mais quand ils furent venus, les chrétiens juifs, ils s'esquiva, ils se tinrent à l'écart par crainte des circoncis. Parce que là, ils ne voulaient pas que les juifs chrétiens circoncis le voient, lui, Paul, en train de manger avec des païens. Ils mangeaient avec des païens, mais quand les autres sont arrivés, ils sont allés se cacher. C'est pas une grosse affaire. C'est juste le principe de pas... de faire de dissimulation ou d'hypocrisie, de faire de faire semblant, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais vous allez voir la suite. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation. Ça veut dire que Pierre, lui, est allé se cacher, pas se montrer, il était avec les Juifs. Qui était avec les païens, puis les autres juifs qui étaient avec, ils l'ont suivi puis embarqué dans le même trip. Il y en a un qui est tombé dans un, sûrement sans s'en rendre compte, qui est tombé dans un genre d'hypocrisie, d'essayer de jouer comme deux jeux. Quand tu es avec les uns, tu réagis d'une manière, les autres arrivent puis tu parles d'une autre manière. Puis ça l'entraînait d'autres chrétiens, parce que quand on pêche, ça entraîne d'autres aussi dans nos péchés. Ça dit, ils usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Ça dit que Barnabas, lui aussi, qui était un compagnon de service de Paul, il avait été entraîné par leur hypocrisie. Il a fait la même affaire. Là, tu vois le motif de Paul quand il l'a repris. Il dit, « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, là, il a expliqué des affaires. Mais voyant qu'il ne marchait pas droit selon l'Évangile, voyez-vous c'est quoi les attentes de Dieu pour nous? Il veut qu'on marche d'une manière droite. À cause de l'Évangile, faut pas mentir, vivre l'hypocrisie. Il ne faut pas faire à semblant, puis de jouer des jeux, puis des manigances, puis essayer de se vanter. Ou tous ces scénarios-là, il faut oublier ça. On est tous des pécheurs sauvés par grâce, puis il n'y a pas un qui est meilleur qu'un autre. Puis ça nous dit dans la Bible de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Il faut tous voir les autres comme étant au-dessus, puis on n'a pas essayé de se prouver qu'on est quelqu'un. Dieu regarde les cœurs, puis c'est ce cœur-là qu'il veut voir en nous. Un cœur humble, un cœur ordinaire, un cœur vrai, pour dire les vraies affaires. Être un menteur ou un hypocrite peut nous amener à être nommé faux prophète. Parce qu'il y a des gens, je critique pas personne, puis je vise pas personne, mais il y a des gens qui disent « Ainsi parle l'Éternel, puis Dieu ne les a pas parlé. » Pour se valoriser, pour montrer qu'ils sont spirituels, peuvent faire par l'apparence des longues prières. Puis ça, ça a toujours été cela. C'était là dans le temps de Jésus. Jésus l'a reproché aux pharisiens. Ils font pour l'apparence de longues prières. Ils font à semblant. On n'est pas là pour faire à semblant. Il y a eu une époque que, quand les gens ils avançaient en avant pour se faire prier pour eux autres, mais les gens tombaient à terre. Tout le monde se jetait à terre. C'était comme rendu la mode de tomber à terre. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde tombait à terre parce qu'il avait été rempli du Saint-Esprit, là, puis que c'est Dieu qui les a jetés à terre. C'est parce qu'un autre tombe à terre, lui aussi se jette à terre. Tout le monde se jette à terre pour faire comme les autres. Mais en réalité, c'est quand c'est pas vrai. C'est de la dissimulation, c'est de l'hypocrisie, c'est un rôle d'acteur, on fait semblant, c'est pas de Dieu. On n'a pas à faire semblant qu'on a été béni ou faire semblant qu'on est rempli si on ne l'est pas. On est comme qu'on est, faut être vrai. Si t'es en matrou, puis tu commences à inventer des affaires, tu peux te faire appeler faux prophète. Puis ça, c'est même si tu en rends compte ou pas. Parce que c'est pas. Tu peux tromper toute ton assemblée, tu peux tromper toute l'Église que tu vois. Mais Dieu voit les cœurs, lui, tu ne peux pas le tromper. Paul, il nous a parlé aussi de l'exemple de deux personnages. Il dit Janès puis Jambres. Ça, on voit ça dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 8 et 9. Ces deux noms-là, tu ne retrouves pas dans l'Ancien Testament. C'est dans le Talmud que tu retrouves ces noms-là. Et le Talmud, c'est le livre de théologie qui accompagne la Bible, qui explique la Bible. Puis eux autres, ils ont donné deux noms à deux personnages qui étaient les gens qui se sont opposés à Moïse. Quand Moïse est allé voir le Pharaon, puis il a changé sa canne en serpent, ces deux gens-là, ils représentaient pour le Pharaon, ils représentaient Dieu sur la terre, puis ils se pensaient Dieu sur la terre, eux autres. Là. Le Pharaon se pensait Dieu sur la terre, puis il avait ses sages, ses mages, ou ses magiciens. C'est des gens qui avaient des pouvoirs surnaturels, des miracles, mais qui ne venaient pas du Saint-Esprit. Donc, c'est des acteurs. Parce que si ce n'est pas des vrais qui représentent Dieu, c'est des faux. Ils font des miracles, puis ils disent des affaires, puis ils essayaient d'empêcher le monde de croire au vrai Dieu d'Israël. Fait qu'ils s'opposaient à Moïse pour démontrer qu'eux autres aussi sont capables de faire ça, puis montrer qu'eux autres aussi l'ont l'affaire. Puis qu'ils faisaient des miracles, qu'eux autres aussi. Fait que là, tu étais libre d'un sens de pas croire à Moïse. Parce que Dieu avait envoyé Moïse avec le pouvoir de changer sa canne en serpent. Il a jeté sa canne à terre, puis elle s'est changée en serpent. Mais c'est Dieu qui faisait ça. Moïse était un vrai envoyé de Dieu, comparativement aux deux autres qui ne l'étaient pas. Il représentait qui? Le diable. C'était des acteurs, des hypocrites qui se font passer pour des représentants de Dieu, que le Dieu des Égyptiens. Puis, il est venu faire les mêmes miracles. Ils se sont opposés à la vérité. Voyez-vous, parce que Moïse s'en venait pour exprimer la vérité. Mais eux autres, par leurs faux miracles et leurs fausses idées, ont cherché à s'opposer à Dieu lui-même. C'est dangereux de commencer à jouer un rôle d'hypocrisie. puis de faux prophètes. Il y a eu d'autres, des faux prophètes dans l'Ancien Testament. Puis le prophète Jérémie, il prophétisait qu'il y aurait une déportation, puis que tout le peuple juif sera emporté à Babylone. Puis les faux prophètes disent, « Ben voyons donc, ça se passera pas, puis je vous prophétise la paix. » Mais le gars, il se fait passer pour un prophète de Dieu. Mais en réalité, c'est un acteur, c'est pas un vrai, c'est un faux. Puis ce qu'il dit, puis ce qu'il fait, ça vient pas de Dieu. C'est le diable qui parle. Fait que c'est pour ça que quand on tombe dans le mensonge, faut faire attention. Parce qu'on veut montrer qu'on est quelqu'un, puis en réalité, on n'est pas. C'est le diable qui va nous mener si on marche dans le mensonge. Mais dans ce cas-là, où ce que les deux noms sont là, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 8 et 9, il dit de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Là, l'apôtre, il sert de cette idée-là pour dire de même ces hommes s'opposent à la vérité. Là, il parle de certaines personnes qui sont dans l'Église puis ils font du trouble avec le mensonge. Il rajoute, ils sont corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Ce que je veux en venir, c'est que quand tu commences à venir, à vivre dans le mensonge, pour essayer de mêler l'Église où ce que tu es, pour essayer de t'afficher pour ce que tu n'es pas, puis tu commences à jouer ce rôle-là dans l'Église, t'es rendu, tu t'opposes contre le Saint-Esprit, tu t'opposes contre Dieu, t'es en train de travailler contre l'œuvre de Dieu dans l'Église où ce que tu es, ça sera pas long que la personne va être dévoilée. De même que Janès et Jambres, le monde ont aperçu que c'était pas de Dieu. Nous autres, on lit ça, on s'en aperçoit tout de suite que c'était pas de Dieu, ces deux personnes-là. La même chose pour celui qui est faux, tout le monde va finir par s'en rendre compte. Il va être révélé par Dieu. C'est pour ça que dans l'Église, Paul il dit ça dans l'Église, parce que dans l'Église, dans cette époque-là, Paul est en train de dire ça à Timothée, il y a du monde dans l'Église qui sont de même, sont de même, sont de même, mais c'est des réprouvés. C'est des gens qui posent, on peut être réprouvé, ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui ne passe pas le test. Parce qu'il y a comme un test, mettons, tu travailles sur une chaîne de montage, puis t'as des poulets passent devant toi, puis tu vois un poulet, tous les poulets passeraient, mais toi, t'es là pour les examiner, les poulets, puis il y en a un qui est déformé, ou il est comme moisi, ou qu'il y a une partie qui est vraiment, tu peux pas mettre ça sur le marché. Tu le prends, puis il est jeté à l'écart. Il est réprouvé. Il passe pas le test. Mais Dieu, Paul est en train de dire qu'il y a des gens dans l'Église qui n'ont pas passé le test, puis c'est des gens réprouvés. Ils peuvent continuer à rester dans l'Église, faire semblant que c'est des chrétiens, puis leur vie, leur parole, c'est de travailler contre Dieu. Mais Dieu dit, de même que Janès puis Jambres, ils ont été reconnus, puis le monde a su que c'était pas de Dieu, de même les faux dans l'Église vont être dévoilés. Dieu veut pas que ça reste là. C'est pour ça qu'il travaille dans nos cœurs pour essayer de déraciner ça. Il veut pas qu'il y ait un petit élan d'hypocrisie, de mensonge qu'on se permettrait. Parce que l'ennemi sert de ça après ça pour faire du ravage. Il faut prendre garde. Les tromperies deviennent de plus en plus grandes aujourd'hui. C'est pas des farces, qu'est-ce que je vous dis là. Nous avons la plus grande banque de tromperies qui a jamais existé. Puis elle est sur Internet. Des mensonges, des fausses doctrines, de la fausseté là, visuelle, des vidéos trafiquées, toutes sortes d'affaires avec des doctrines fausses, puis toutes, là, tu sais, pour tromper tout le monde. On est dans une époque où ce que la tromperie, c'est ce qui est à son maximum. Ça n'a jamais été aussi fort que cela. Puis il y a plein de chrétiens qui disent des amen à des affaires qui sont pas de Dieu du tout. On ne devrait jamais toucher à ça. On ne devrait même pas le... On va le voir, il y a même un verset qui dit, « Je ne devrais même pas leur parler de les fruits et s'éloigner du monde qui ment. » C'est pas de Dieu. C'est pas des petites menteries vignelles. Un mensonge ou une fausse doctrine, c'est faux. Faux, c'est faux prophète, faux docteur. un ouvrier trompeur. C'est rempli de même d'ouvriers trompeurs sur Internet. C'est pas des farces. Faut faire attention puis nous détourner de la vérité. Dans 2 Timothée 3:13, ça dit, « Mais les hommes méchants et imposteurs y avanceront toujours plus dans le mal. » Des gens méchants et imposteurs. C'est un imposteur. Quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, c'est un imposteur. Ils avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Vous voyez que les apôtres ne mâchaient pas les mots. Si blanc, c'est blanc, mais ils disaient blanc. T'es un égaré, mais ils disaient que t'es un égaré. Tu peux pas dire à quelqu'un, t'es vrai, t'es mon frère, puis etc., s'il l'est pas. C'est marcher dans le mensonge. Tu marches dans la vérité, c'est des gens imposteurs. Ils avancent de plus en plus, ils apprennent, ils utilisent la technologie. Le mensonge, il y a des doctrines de démons à flot sur Internet. Il y a des gens qui se tiennent dans le vrai, puis il y a les gens faux. Si Dieu nous les montre, en parlant des gens faux, mais il faut s'en éloigner. Dans 2 Timothée 3:5, ça dit que dans la fin des temps, les gens, il y aura des gens qui ont une apparence de piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Faut pas penser qu'on a un gain à avoir quand tu restes auprès des menteurs. Éloigne-toi. C'est des faux. Cherche les vrais. Tiens-toi avec des vrais. Jésus, il a quelques conseils pour nous, ses disciples. On veut vivre. Il y en a-tu qui veulent être vrais, qui veulent vivre dans la sainteté, qui veulent être francs? Première chose, prenons garde de ce qui se passe dans nos cœurs. Faut s'examiner, faut y penser. Je suis un croche? J'ai-tu des pensées que je me laisse aller à des pensées de menterie? Est-ce que j'ose laisser dire des menteries par ma bouche? Faut s'examiner. Si on s'examine pas, on changera pas. Si tu t'examines et tu dis oui, c'est vrai, ça m'arrive, confesse-le au Seigneur, demande pardon au Seigneur, demande au Seigneur qu'il te délivre de cela, puis il va le faire. Parce que Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner, puis nous purifier de toute iniquité. Amen.
Amen.
Lorsqu'on sert le Seigneur, il faut examiner nos motifs. Afin de pas attrister le Saint-Esprit. Tu veux qu'il t'emmène là, mais si tes motifs sont pas purs, ça marchera pas, tu vas passer pour un hypocrite. Dans Matthieu 6, 5, c'est ce que Jésus il a expliqué encore là-dessus, sur l'hypocrisie. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, voyez-vous, qui aiment à prier debout dans les synagogues pour au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Voyez-vous, l'idée, c'est examine ce que tu fais quand tu sers le Seigneur. T'es-tu là parce que tu cherches à être vu, à être félicité, puis que là, tu t'attends des louanges, puis tu t'attends des... Si t'es de même, là, t'es en train de t'enfler d'orgueil. Puis si t'es rendu, tu penses que t'as atteint quelque chose, puis en réalité, on ne l'a pas atteint, on se ment à nous-mêmes. Il dit, faut pas être comme les hypocrites. On n'a rien à prouver à personne. Quand on prie, c'est demander direct à Dieu ce qu'on demande, court, net et précis. Ça donne rien d'en mettre, puis d'étirer la prière pendant une demi-heure pour rien. Ça donne rien. Jésus, quand il a enseigné la prière du Notre Père, puis quand il lui demande, mettons, le sujet pour demander à avoir du pain aujourd'hui, il a-tu fait une prière d'une demi-heure? Il a juste dit, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Juste court, net et précis. Chaque sujet, c'est des courts, nets et précis. Faut s'habituer à cela. C'est sûr que c'est pas évident parce que des fois, on aime ça d'en remettre pour montrer qu'on est capable de prier puis qu'on a un beau vocabulaire. Puis t'aimes ça. On fait des poèmes puis il y en a qui font des rimes puis il y en a qui font des prêches dans leurs prières puis il y en a qui... Ils critiquent aussi dans leur prière. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Je ne vise pas personne, je vais juste le dire pour qu'on se rende compte. Ne jouons pas un rôle. Soyons vrais. Tel quel. T'es de même. Oui, on reste poli, ça c'est correct, mais de ne pas chercher de se monter. Il dit que chacun, dans Éphésiens 4, 25, ça nous dit, c'est pourquoi renoncer aux mensonges, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ça revient à ce que je vous disais au début. Tout ce qui est mensonge, on oublie ça, on dit les vraies affaires. Parce qu'on est membres les uns des autres, parce qu'on fait toute partie de la maison de Dieu. Puis je finis avec un dernier verset. Demandons de la sagesse d'en haut, puis elle va nous tenir loin de l'hypocrisie. Parce que dans la sagesse d'en haut, il y a comme un fruit qui va sortir de notre vie quand on l'a reçu, puis qu'on marche dedans. Dans Jacques 3, 17, ça dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Exempt de duplicité et d'hypocrisie. Quand tu marches dans la sagesse d'en haut, tu ne seras pas une personne à deux faces, puis tu ne seras pas un hypocrite. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu nous as laissée. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois qu'on a eu des pensées orgueilleuses, des pensées à essayer de se monter, puis à essayer de montrer qu'on est quelque chose, qu'on cherche à être valorisé. Je te demande pardon, puis je te demande de nous changer, puis qu'on ait le caractère, puis l'attitude, la pensée qui était en Jésus. On veut devenir comme Jésus, humble de cœur. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire dans nos vies. Je te rends grâce dans le nom de ton Fils, Jésus. Amen.